L'homme qui voulait être invisible, troisième partie. Nous n'est-ce qui serons qu'un tableau rapide de ce que fut la vie d'Hopkins pendant ses 95 journées. On peut dire que cette vie était dominée par l'œuvre de bienfaisante supercherie et réglée par l'obligation d'alimenter l'erreur de M. Parpington. Hopkins, par bonheur, dès le premier jour, au principe isolé, M. Parpington, et en conséquence éviter les bévues que les étrangers n'auraient pas manqué de commettre à son endroit. M. Parpington, en effet, avait beau mettre à rude épreuve sa mémoire naguère fameuse, il n'arrivait pas, et pour cause, à se rappeler les formules qui, selon lui, conféraient l'invisibilité. Hopkins, affirmant que ces formules avaient été brûlées, lui persuada sans peine qu'il les retrouverait dans sa tête géniale, mais que, jusque-là, il fallait tenir toute histoire, cette histoire secrète. Autrement, arguait-il, les gens pourraient croire à un phénomène accidentel. Il y en a même qui taxeraient d'infernal votre invisibilité. Et tout cela ne vous attirerait que des mécomptes. Il conviendra donc que vous ne sortiez qu'en ma compagnie, vêtu de haut en bas, des effets qui cacheront votre néant, comme fit le héros de Wells. Et comme Griffin, vous serez ganté, et comme lui, coiffé d'un large chapeau bien enfoncé. Je vous achèterai une perruque et de lunettes noires. Pour la figure, oh, il y a la solution d'un masque ou de fard très épais. Mais je préférerais les bandages, toujours comme Griffin. Bon, c'est plus sûr et plus naturel. Nous dirons donc, l'explosion de laboratoire vous a défiguré et rendu aveugle. Et d'autre part, comme je crains l'indiscrétion des enfants, je vous demanderai de paraître devant eux que dans ce même appareil. Monsieur Parrington se montra docile et ravi. Et il est bon de faire remarquer qu'il voulait bien de suivre l'ascendant d'Hopkins. Ce neveu très affectionné lui prêtait ses yeux, pour ainsi dire. Et Monsieur Parrington lui livra sa destinée. Pour lui, désormais, rien n'existait plus que dans la parole de son guide. C'est pourquoi les habitants d'Iping virent tous les jours Hopkins se promener avec un gros petit homme bizarrement emmitouflé. Mais on était en hiver et grâce à la précaution de ne sortir qu'à la nuit, sous prétexte que la lumière nuisait aux prunelles du blessé, la chose ne souleva pas de commentaires. Par ailleurs, Hopkins et sa femme s'ingéniaient à flatter M. Parkinson en homme, à le flatter, à le traiter en homme invisible. Et ils le firent scrupuleusement. Quand l'un d'eux pénétrait dans la chambre de l'aveugle, et qu'il apercevait l'oncle Pat en train de tenue d'intérieur, monsieur ou madame Hopkins ne manquait pas de s'écrier « Oh Dieu, on ne peut pas s'y habituer. Quel étrange spectacle celui d'un homme sans tête et sans main !» Et aussitôt, monsieur ou madame Hopkins étaient payés de leur pénible mensonge par le sourire de félicité qui épanouissait la rose et rose face du bien-aimé Monsieur Palpington. Une fois pourtant, dans une circonstance analogue, Madame Hopkins faillit démolir tout l'édifice de leur pieuse combinaison. Et voici comment. Monsieur Palpington était légèrement enrhumé, ce qui explique pourquoi Madame Hopkins lui apportait un grog. Elle frappa à la porte de l'oncle, qui l'attendait. Une voix joviale lui répondit « Entrez !» Et Madame Hopkins entra, sans faire attention au joyeux rire que cette voix comprimait. Et on mesura toute la charité, toute l'excellence et aussi toute l'énergie de Madame Hopkins quand on saura que le grog ne fut pas renversé sur le parquet, que le cri naissant dans la gorge de Mme Poppins s'étrangla dans une espèce de toux suffisamment imité, et que la sainte femme acheva d'entrer en dépit de son irréprochable précaution, éducation, et qu'elle s'exclama d'un ton surpris, « Tiens, il n'y a personne. Où êtes-vous donc, oncle Papington ?» Alors que M. Papington tenait, en vérité, se tenait devant elle, n'ayant pour toute parure qu'un sourire farceur, et laissant ouvert que de ridicule. Ah, cette feintise n'était pas une sinécure. Elle exigeait une vigilance de tous les instants, un contrôle perpétuel, la prévision de toutes les éventualités, la surveillance pénétrante de soi-même et d'autrui. Instruire Bob et Lily de cette comédie familiale, on y pouvait songer. Force fut donc de leur interdire l'accès de la chambre de M. Parkington, celle où il couchait, prenait ses repas et vivait la plupart du temps. Alors le petit obéit sans barguigner. Mais lorsque le chat fut vendu, Bob et Lily versèrent des larmes. Hopkins vendit le chat parce que il se défiait confusément de la bête et de son instinct. Il avait bien la seule chose à craindre, pour lui, son propre compte et celui de ses semblables, sans aller exposer aux gaffes griffes d'un animal le succès d'une mystification aussi louable et aussi compliquée. Un détail donnant l'idée de toutes les précautions qu'il fallait prendre avec M. Parkington pour nourrir sa chimère. Comme on le pense, c'était Hopkins qui procédait à la toilette journalière du bon vieux Poupon. Eh bien, que serait-il arrivé, par exemple, si pour renier les ongles de M. Parkington, Hopkins n'avait pas songé à les enduire préalablement d'une pâte quelconque. M. Barbington alors aurait dit « Oh Arthur, comment pouvez-vous renier mes ongles sans les voir ?» Et tout aurait été perdu, exactement comme si Mme Hopkins avait cru ou s'était effrayé le jour du grave, du grog. Mais trop longtemps nous avons parlé de la cécité de M. Parkington, sans dire que Hopkins fit nécessaire pour en connaître la nature et la cause. Ici encore se dressait l'inévitable problème, ne pas détromper M. Parkington, et en l'espèce lui cacher que l'on procédait à l'examen de ses yeux, puisqu'il était convenu que ses yeux étaient invisibles. Par chance, M. Carpington ne se lassait pas de demander à son neveu mille éclaircissements sur le prodige optique dont il croyait être l'objet. Le phénomène de la digestion, entre autres, exaltait vivement son intérêt. On sait que dans l'homme invisible, Wells suppose que les aliments ingurgités par Griffin ne deviennent eux-mêmes invisibles que peu à peu dans la mesure de leur assimilation. Et c'était pour M. Carpington une véritable fête que de se faire décrire par Hopkins les phases de ses digestions et la disparition progressive des substances alimentaires. Hopkins improvisait là-dessus de fort jolis comptes rendus. Il soutenait que de pareilles observations étaient pour la médecine d'une importance capitale. Mais au lieu de regarder M. Carpington à l'estomac ou bien au pancréas, ce qui ne lui renseignait que sur la rose et dodue superficie du bedon de son oncle, il ne faisait pas faute d'examiner, dans toutes les règles de l'art, les yeux qui ne voyaient pas clair. Hopkins n'y distingua rien de particulier. Alors il s'entretint du cas de M. Carpington avec un célèbre oculiste de Londres, son ancien camarade, et ils conclurent tous les deux à l'une de ces amoureuses si fréquentes où l'œil ne présente aucune lésion apparente et qui, parfois, ont pour origine qu'un trouble nerveux. Nul traitement local n'y pouvait remédier. Et pourquoi cacherions-nous que ce résultat réjouit Hopkins? Il avait fait son devoir en dégageant sur la cécité de M. Carpington tout ce que la science pouvait lui apprendre. Mais ce devoir accompli, il était heureux d'une impuissance qui lui permettait de laisser M. Carpington aux joies de son illusion. Car enfin, si un traitement avait été possible, Hopkins aurait-il eu le droit d'en négliger l'application? Aurait-il pu faire autrement que de tourmenter M. Carpington pour lui rendre cette vue dont la privation causait si étrangement son bonheur? Le cas de conscience ne se posait pas, et nous comprenons sans peine que Hopkins pût s'en réjouir. Aussi bien, M. et Mme Hopkins s'accoutumèrent rapidement aux nouveaux soins que l'état de M. Carpington leur imposait. Maintenant, débarrassés des premières inquiétudes, pliés au rôle étrange qu'il leur fallait tenir, ils goûtaient mieux le plaisir d'être bon, auquel s'ajouta bientôt un plaisir plus rare et plus mystérieux. Lequel? Tout simplement celui de jouer au miracle, celui de faire comme si un être phénoménal vivait sous leur toit, celui d'accorder leurs actes avec une merveille, bien que cette merveille n'existât point. La destinée, les prenant par le cœur, avait obligé M. et Mme Hopkins à entrer dans le jeu de M. Carpington comme dans une ronde enfantine. Et à cause de cela, ils sentaient tressaillir en eux on ne sait quelle volupté obscure, ambiguë et précieuse. seul semblait raconter, remonter du fond d'eux-mêmes. Cela revenait du fond de leur enfance, comme autrefois les fantômes de leur imagination prenaient un corps dont ils subissaient l'influence et la féerie qu'ils interprétaient constamment finissait par revêtir une manière de forme artificielle, et ainsi les faux dieux finissent par se constituer de la fumée des sacrifices, et cette insensibilité, invisibilité qu'ils affirmaient sans cesse puisait dans leur affirmation une sorte d'existence psychologique, et tel est le prodige d'une merveille que son nombre suffit à créer du plaisir. Il n'y a rien, cependant, qui ne prenne fin. Au bout de quelque temps, M. Parpington donna des signes de lassitude et d'impatience. Il en avait assez d'être aveugle, invisible. Il voulait récupérer ses propriétés primitives, trop pour se remettre à l'œuvre, car il s'en reconnaissait désormais incapable, mais seulement pour échapper aux ténèbres et pour cesser d'être quelqu'un qui n'était plus le semblable de ses semblables. Sa gaieté tomba. Il fut très malheureux. Et ne pouvant trouver le moyen de revenir visible et voyant, il se désespérait avec amertume. Or, Pince connut alors de grandes perplexités. Plusieurs fois, il fut sur le point d'avouer à M. Parpington qu'il l'avait berné, mais peut-être, après tout, la conscience de n'être pas invisible, de n'être pas anormal, apporterait quelque soulagement au vieillard. Mais quelle serait sa tristesse de se savoir aveugle, sans remède et sans gloire. La solution vint tout à coup. On peut croire qu'Hopkins la possédait déjà à son insu, lorsque M. Parpington lui donna le composé du breuvage. Car depuis plusieurs jours, Hopkins était obsédé par différents souvenirs. Sa visite à l'illustre confrère de Londres et un voyage qu'il avait fait jadis dans les Pyrénées françaises lui revenaient sans cesse à l'esprit avec d'autres pensées qui, malheureusement, faisaient de l'embrouillage. D'autant aussi qu'il se répétait « Oui, mais cet homme m'obéit aveuglément. Cet homme est complètement sous ma coupe, sans voir où cela pouvait aboutir. » Mais enfin, ce fut la découverte du breuvage qui déclencha le dénouement. « Arthur !» appela M. Parpington un beau matin. « Venez vite, prenez un crayon et du papier. » Hopkins accourut, fit ce qu'on lui demandait, et trois lignes de caractères alphabétiques et de chiffres petits et grands lui furent dictées d'une voix fiévreuse. « Mais qu'est-ce cela ? » dit-il. « la formule de visibilité. Pour me rendre la visibilité, Arthur, c'est pour boire. Préparez-moi cela abondamment. » Pour boire ? Hopkins parcourut les yeux, l'ordonnance. Il y avait dans cette préparation de quoi empoisonner tous les citoyens d'Iping. Pourtant, il n'objecta rien par habitude, se réservant de trouver un échappatoire. Il descendit, songeur et plein d'ennui. Mais par degrés, Hopkins mua sa figure renfrognée en un visage d'espérance et, ayant ouvert l'armoire aux liqueurs, il se mit à confectionner un cocktail dont la fantaisie aurait effaré le barman le moins classique. Ce mélange contenait au moins 12 spiritueux, choisis au hasard et dosés de même. Cela fit, au bout du compte, un liquide bleuâtre qui remplissait un verre à plomb. Hopkins y ajouta quelques gouttes de médicaments afin de donner à l'ensemble un air, un petit arôme de circonstance, et il monta chez M. Parkington. Buvez, lui dit-il, voilà l'affaire. Madame Hopkins, qui avait assisté à la confection du cocktail diabolique, s'empressait sur les pas de son mari. Oh, Dieu fasse que ça réussisse, indiqua M. Parkington. Et d'un trait, il avala la mixture. Étendez-vous sur votre lit, recommanda Hopkins. L'action sera plus rapide. M. Parkington s'étendit docilement. Une minute passa. Le sympathique vieil homme souriait avec béatitude et se pourléchait les lèvres. « Ah, voyez, voyez !» s'écria Hopkins brusquement. « Vos mains, votre nez, voyez vos oreilles. Ah, voici que vous reparaissez. Mon oncle, quel bonheur de vous revoir. Oh là là! Tenez, votre menton qui se reforme. » Mais il ne pouvait se défendre, pendant qu'il prononçait ces affreuses craques, d'observer affectueusement la physionomie de l'oncle Pat. Et une fois, un miroir était là, alors il le lui tendit. L'autre, se redressant, pivota sur sa base avec prestesse, s'assit au bord du lit et promena sur toute chose des regards émerveillés. « Oh, joliment agréable !» soupira-t-il en extase. Hopkins sentait sa poitrine s'élargir de fierté. « Oh, puissance redoutable et mystérieuse suggestion !» murmura-t-il. M. Parkington contemplait affectueusement le monde extérieur. « Arthur, Marie, moi, mais je vous vois, et je me vois, et vous me voyez aussi à présent. Mais d'où vient que tout bascule? Je suis ivre, ma parole. » « Mais non, dit Hopkins combattissant, seulement vous n'êtes pas encore réadapté, vous comprenez. Allez, restez assis sur votre lit. Cher, oh mon cher beau petit oncle, finit par dire Madame Hopkins en embrassant M. Parkington sur les deux joues. Un large rire muet égaya le frais visage de celui qui avait voulu réaliser la fable la plus étonnante de la littérature contemporaine. Il dodelinait de la tête et se balançait de droite et de gauche, luttant contre un heureux vertige qui lui faisait perdre l'équilibre. « Comment vous sentez-vous, oncle Pat ?» demanda maternellement Madame Hopkins. « Très bien, que là-bas, monsieur Babington, en riant, ses petits talons grassouillaient, battirent le sommier. Et il le lança soudain vers Hopkins à un doigt oratoire. Quand j'étais invisible, commença-t-il d'un air important. Et cette phrase-là, Hopkins saisit sur le champ qu'il l'entendrait plus d'une fois, jusqu'à ce que l'oncle fût pour toujours privé de la parole. Mais il avait tant, M. Barpington, qu'il souhaita l'entendre, cette phrase, jusqu'à ce que lui, Hopkins, fût pour toujours privé de lui.